Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 32. Un voyage à la campagne. Une grande animation régnait à la préfecture de police. L'opinion publique, surexcitée par les articles des journaux, avait perdu confiance en ceux qui étaient chargés de veiller sur la sécurité, les biens et la vie de leurs concitoyens. Le chef de la sûreté, surtout, était visé. C'était lui qui, depuis le début, avait enquêté sur les attentats et les crimes du Cercle Rouge. C'était donc lui qui allait être sacrifié. Parr demanda et obtint l'agrément de ses chefs à un voyage d'enquête en France. Pendant son absence, on devait chercher son successeur. Il n'avait guère qu'un ami parmi les dirigeants, et, chose curieuse, c'était le préfet lui-même. Ce dernier l'avait protégé de son mieux, mais son cas était maintenant désespéré. Il ne put qu'ajourner au mois suivant le départ de son subordonné, et cela grâce au concours inattendu de Derrick Yale. Yale alla rendre visite au préfet et donna sur le meurtre de Froyant tous les détails possibles pour exonérer son collègue officiel. Du fait même que je me trouvais là en compagnie de Parr, moi qui m'étais spécialement chargé de protéger M. Froyant, M. Parr devrait être déchargé de toute responsabilité. Le préfet s'appuya au dossier de son fauteuil et se croisa les bras. « Je ne voudrais aucunement vous froisser, Monsieur Yale, » répondit-il. « Mais vous savez qu'officiellement, nous ne pouvons faire état de vos services ni de votre présence. » Rien de ce que vous pourriez dire ne viendrait en aide à M. Parr. Il a couru sa chance et il a échoué. Au moment où Yale allait se retirer, le préfet le rappela. « Vous pourriez peut-être jeter quelques lumières sur un point, » lui dit-il. « C'est à propos du meurtrier de James Beardmore. Un certain Sibley. « Si vous vous en souvenez. » Yale fit un signe affirmatif et se rassit. « Qui se trouvait dans sa cellule au moment de ses aveux ?»« Monsieur Parr, moi-même et un sténographe officiel. »« Homme ou femme ?»«
Un homme, appartenant, je crois, à la préfecture. » »« C'était tout. » Le gardien de la prison est entré une ou deux fois. C'est lui qui apporta la cruche d'eau dans laquelle on trouva plus tard le poison.
Le préfet ouvrit alors un dossier et y prit une grande feuille de papier. « Voici, dit-il, la déposition du gardien. Je vous épargne les préliminaires, mais ceci m'intéresse. » Il mit ses lorgnons et lut lentement. Le prisonnier était assis sur son lit. Monsieur Parr lui faisait face, et Monsieur Yale se tenait le dos appuyé à la porte qui n'était pas fermée à clé quand j'entrais. Je pris la cruche et allai la remplir au robinet de la cour. Je la laissai un instant sous le robinet, car à ce moment, on m'appela d'une autre cellule. Mais il est impossible que quelqu'un ait pu approcher du robinet pendant ce temps, quoique la porte de la cour fût ouverte. Lorsque je rapportai la cruche, M. Parr me la prit des mains en me disant de ne plus les interrompre. « Vous voyez, » reprit le préfet en enlevant ses lorgnons, « qu'il n'est pas question de sténographe là-dedans. L'avait-on recruté sur les lieux ?
Je suis presque certain qu'il était attaché à la préfecture.
Il me faut demander des éclaircissements à part, conclut le préfet. Il doit être revenu de France. Je lui téléphone tout de suite pendant que vous êtes là.
Par expliqua que le sténographe avait été engagé dans la petite ville et, au cours des heures confuses qui avaient suivi la découverte de la mort de Sibly, il n'avait pas songé à se préoccuper de l'identité de cet homme. On lui avait fourni une copie à la machine des déclarations de Sibly, et il se rappelait vaguement avoir payé directement ce sténographe. Ce fut tout ce que Parr put dire à ce sujet. À l'air désappointé du préfet, Yel conclut que la réponse de Parr n'avait pas vraiment éclairci la question.
Vous ne vous souvenez pas vous-même des traits de ce sténographe ? Reprit le préfet.
Yel secoua la tête négativement.
Il me tournait le dos, dit-il.
Le préfet grommela quelque chose sur le manque de précision apporté à cette affaire, puis ajouta
« Je ne serais pas surpris que votre sténographe ait été un émissaire du Cercle Rouge. Ce fut une négligence coupable que de ne pas s'assurer de l'identité de l'homme qui a établi une pièce si importante pour la justice. En l'occurrence, Parr a commis une faute. Et je le déplore vivement, car je l'aime beaucoup. Évidemment, c'est un de ces officiers de police de la vieille école que vous autres, adeptes des méthodes modernes, affectez de mépriser. Il n'a pas de don extraordinaire, non, mais une certaine finesse tout de même. Enfin, il faut qu'il s'en aille. La chose est décidée. Je puis vous en faire part, car il est déjà averti. C'est mille fois fâcheux. »
En réalité, tout le monde était au courant de la prochaine retraite du chef de la sûreté. Mais celui qui paraissait le moins affecté, c'était Parr lui-même. Il poursuivit son labeur quotidien comme si de rien n'était, et avec le même entrain que s'il venait d'être nommé à de hautes fonctions. Une après-midi, il rencontra, par hasard, Jack Beardmore, qui fut étonné de le voir si gai.
« Eh bien, monsieur Parr, » dit le jeune homme, « approchons-nous du dénouement. »
« Oui, » répondit-il. « En tout cas, en ce qui me concerne. »
Il apprit à Jack qu'il allait prendre sa retraite.
« Mais vous ne pouvez pas vous retirer ainsi !»
s'écria le jeune Beardmore.
« Au moment où vous tenez tous les fils du mystère, ce serait folie, à moins qu'on ne veuille abandonner tout espoir de capturer jamais ces sinistres criminels !»
Parr songea que depuis longtemps, on avait perdu cet espoir. Mais il n'aimait pas aborder ce sujet.
Jack se préparait à partir pour sa maison de campagne, où il n'était pas retourné depuis que son père y avait trouvé une mort tragique, mais où de nombreuses questions d'intérêt, renouvellement de baux avec des fermiers, réparations à décider, nécessitaient sa présence.
« Vous y allez seul ?»«
Oui, » répondit le jeune homme. Il ajouta aussitôt « Je n'ose vous y inviter, monsieur Parr, car vous êtes sûrement retenu en ville par vos fonctions. Mais si ce n'était pas le cas, je serais ravi. »
« Je crois qu'actuellement, on peut bien se passer de moi, » répondit le chef de la sûreté. « Oui, je crois que je puis accepter votre aimable invitation. D'ailleurs, je n'ai pas revu votre villa depuis la mort de votre pauvre père, et je serai heureux d'examiner à nouveau les environs. »
Il demanda 2 jours à ses chefs, et, comme Jack devait partir le soir même,
il rentra directement chez lui, prépara un petit sac, écrivit une lettre pour prévenir Yel et se rendit à la gare. À la fin de sa lettre, il avait ajouté le post-scriptum suivant. « Il est possible que certaines circonstances exigent ma présence en ville. Dans ce cas, n'hésitez pas à m'appeler. » Étant donné cette dernière phrase, la conduite de M. Parr ne put que paraître bizarre.